This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
Mando na Rádio Globo.
From CNN Radio 7.
Na Rádio Dacha.
O Brasil quer se
vingar. Turquia fotógrafo.
Slava Rússia.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde, aujourd'hui en Turquie, Éric Valmire dans Partout ailleurs. En Palestine, où Mahmoud Abbas a déclaré aujourd'hui être ouvert à la reprise de négociations de paix avec les Israéliens, quel que soit le prochain Premier ministre de l'État hébreu. Tous les détails avec Nicolas Roper. Comme tous les mercredis, Laurence Perron et le cinéma. Ce soir, le film Inherent Vice. À 18h55, c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier sur l'Indonésie qui a décidé d'exécuter les trafiquants de drogue. Parmi eux, un Français. Mais tout de suite, la Russie, où vit toujours le lanceur d'alerte, Edward Snowden.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Demain soir, la chaîne Planète diffusera le documentaire Snowden, ennemi d'État. C'est un véritable polar qui se concentre sur le tout début de l'affaire, c'est-à-dire des premières révélations de Snowden depuis Hong Kong jusqu'à son exfiltration à Moscou, en Russie. En plus d'Edward Snowden, l'autre personnage principal du film est notre invité ce soir. Bonsoir Sarah Harrison.
Hello, good evening.
Xavier Combes va assurer la traduction simultanée de vos propos. Bonsoir Xavier. Sarah Harrison, vous êtes membre de Wikileaks, journaliste. C'est donc vous qui avez aidé Edward Snowden à fuir Hong Kong. On va revivre avec vous ces semaines qui ressemblent à un film d'action ou à un roman d'espionnage. Mais pour commencer, expliquez-nous comment la connexion se fait entre Wikileaks et Edward Snowden, deux lanceurs d'alerte qui ne travaillent pas ensemble à l'origine, mais qui vont commencer à céder.
Wikileaks est un éditeur qui publie des informations émanant de lanceurs d'alerte, mais nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte nous-mêmes. Le rapport entre les deux est la suivante. Après que Snowden a fait ses déclarations, il devait avoir des difficultés pour être en sûreté à Hong Kong, donc il est venu vers nous, non seulement en raison de notre expérience en matière de sécurité, mais également par notre expérience dans des cas d'asile. Nous avons eu le cas de Julian Assange, étant donné les menaces qui ont pesé à ce moment-là et le fait que Julian a dû demander l'asile en Équateur pour être en sécurité. Bref, nous avions, nous, chez Wikileaks, beaucoup d'expérience et c'était très utile pour Snowden, donc il nous a contactés. Et il a voulu savoir en quoi on pouvait l'aider.
Et donc on vous envoie, vous, à Hong Kong, sur place, pour exfiltrer Edward Snowden.
Je suis allé à Hong Kong pour aider. Je ne savais pas très bien comment j'allais aider. Les choses sont devenues plus claires au fil des jours que j'ai passé à Hong Kong. Hong Kong, on le savait, ce n'était pas un endroit sûr pour Snowden. Il fallait qu'il quitte Hong Kong pour chercher un asile dans un autre pays.
Au début, on ne sait pas, Sarah Harrison, que Snowden est à l'origine des fuites. Les premiers articles commencent à être publiés. Ça fait un bruit à l'échelle mondiale, un bruit absolument considérable. Et puis, il publie une vidéo sur le site du Guardian où il dit « Je suis Edward Snowden, voilà ce que j'ai fait. C'est moi qui suis derrière ces révélations. » On voit son visage pour la première fois. Et là, c'est la chasse à l'homme.
Et à ce stade, tout le monde connaissait son visage. On savait très bien qui il fallait rechercher. Et du reste, il y avait eu des portraits dans le film qui ont permis à des journalistes de trouver l'hôtel dans lequel il séjournait à l'époque.
C'est une catastrophe pour vous que son visage soit connu, qu'on sache à peu près où il se trouve. Comment le faire sortir dans ces conditions-là? Comment le faire sortir de Hong Kong où sa vie même semble être en danger?
Lorsqu'on est monté à bord de l'avion... Non, attendez, je reviens en arrière. Les États-Unis avaient demandé son extradition. Le gouvernement de Hong Kong n'avait pas confirmé les choses à ce moment-là, donc il a pu monter à bord de l'avion, bien que connu, mais il a pu monter comme un réfugié en recherche d'asile.
Sarah Harrison, est-ce que vous dites merci aux autorités de Hong Kong pour leur incompétence, dont on se dit qu'elle n'est pas un hasard, sans doute?
Il y avait de l'incompétence du côté des États-Unis aussi. La demande d'extradition faisait état d'un mauvais nom pour Snowden. Hong Kong a bien agi. Il voulait que tous les dossiers soient bien remplis, comme en bonne et due forme, avant de procéder à une arrestation. C'était bien que nous ayons été en Hong Kong. Rétrospectivement, on se dit que si on avait été dans un pays qui suivait les tactiques de harcèlement des États-Unis, eh bien, Snowden aurait été arrêté, bien que les dossiers n'aient pas été pleinement remplis.
Quel mot utiliseriez-vous pour décrire la puissance de la réaction américaine, la puissance de cette pression qu'ils mettent à la fois sur Hong Kong, mais sur tous les pays qui sont potentiellement des terres d'accueil pour Snowden ?
Je dirais que la réaction des États-Unis n'était pas surprenante. Il y avait eu des exemples, Chelsea Manning, où les États-Unis ont eu une réaction similaire. Ils ont arrêté Manning, l'ont incarcéré dans une prison dans des conditions proches de la torture. Ensuite, les États-Unis ont mené une enquête très approfondie et elle a été condamnée à 35 ans d'emprisonnement. S'agissant de Snowden, ce qui était plus extraordinaire, c'était le nombre de pays européens qui ont été prêts à s'agenouiller devant les États-Unis et à suivre toutes leurs demandes.
Citez les deux premiers pays qui refusent.
Alors, l'ordre, je ne m'en souviens pas très bien, mais il y avait la France, l'Autriche.
C'était la Pologne en premier, la France en second. C'est ce que dit Snowden. Et j'imagine que ça a dû être une grande déception pour lui.
Il parle de l'asile. Hein. Ah non, non, je croyais qu'on
parlait bien de l'asile.
S'agissant de l'asile, oui, vous avez raison. La Pologne et la France, dans l'ordre.
C'est Sarah Harrison, Julian Assange dans le film, je crois, qui dit qu'il y avait très certainement une menace sur la vie même de Snowden, que dans les scénarios pour le faire sortir de Hong Kong, il y avait un scénario avec la location d'un jet privé ou le transport par un avion de ligne, et que les Américains n'auraient pas hésité à abattre un jet privé et se poser un peu la question de savoir s'ils abattraient un vol d'une compagnie aérienne classique. C'était bien de ça dont on parlait ?
Oui, évidemment, il faut procéder par étapes hein, pour bien comprendre. Julian parle de la situation lorsque nous étions en Russie pour essayer de comprendre comment on pouvait contacter d'autres pays pour accueillir Snowden. Donc, Snowden avait son passeport annulé, mais on a pu monter à bord de l'avion. Donc, on essayait de savoir comment on arriverait en Amérique latine, qui était la destination d'asile. Donc, WikiLeaks utilisait autant de contacts et de sources que possible pour essayer de comprendre comment le gouvernement États-Unis réagirait à tel ou tel scénario. Nous devions comprendre les meilleures options que nous pouvions adopter.
Et là, comme au poker, WikiLeaks a bluffé.
Oui, c'est ça. En fait, le film ne peut pas tout relater, mais dès le début, WikiLeaks a adopté une tactique qui consistait à mener le gouvernement américain sur de nombreuses pistes. En fait, nous avons rendu visite à toutes les ambassades d'Amérique latine et si j'ai été surveillé, il fallait que je brouille les pistes. Donc ça, c'était une tactique que nous avons adoptée tout au long de notre démarche. Et le gouvernement États-Unis a évidemment été victime de notre bluff et puis il y a eu donc un incident diplomatique.
À vous poser la question à l'ancien patron de la CIA et de la NSA américaine sur le fait de savoir s'il s'est déjà lui-même posé la question du bluff de WikiLeaks, on voit sa bouche s'ouvrir, sa mâchoire se détacher et dire « Ah oui, non, ça, qu'on ait été les éventuelles victimes d'un bluff, j'y avais jamais pensé. Hein. » Et c'est le seul moment où il perd un peu de son contrôle parfait devant la caméra.
Oui, c'est une interview géniale de Hayden qu'ont fait les réalisateurs. C'est une confession de sa part, un aveu. Il admet non seulement qu'ils ont été victimes d'un bluff, c'est gênant quand même pour la CIA, il avoue également leurs erreurs, erreurs qui ont permis à Snowden de chercher l'asile. Ils se sont trompés sur l'existence même de Snowden et de ses agissements. Donc c'est intéressant de voir quelqu'un d'un tel profil faire un tel aveu. C'est génial. Oui, oui, j'avoue, j'ai fait ces erreurs. C'est quand même une agence de renseignement assez connue.
Oui, quand même. Ouais. Sarah Harrison, vous êtes donc restée, du coup, à Moscou avec Edward Snowden. On se souvient de ces semaines et de ces semaines où il n'avait nulle part où aller et où il restait dans la zone de transit international de l'aéroport de Moscou. À quoi ressemblaient les journées ?
That's quite a funny one because everyone assumes ça c'est assez cocasse. On peut penser que c'était très excitant parce que tous les regards étaient portés sur nous et tout, mais je peux vous dire que un mois dans une pièce, dans une zone de transit, dans un aéroport, c'est terriblement ennuyeux. Fort heureusement, il y avait Internet. Donc on pouvait lire les infos, on pouvait regarder des films, on pouvait se distraire. Et bien sûr, nous avions du travail à faire. Nous devions assurer la sécurité de Snowden. Donc, on a fait des demandes d'asile assez nombreuses à plusieurs pays. Ça prend du temps, il faut préparer les dossiers.
Et lui était comment pendant ces semaines où vous l'avez côtoyé, où vous étiez enfermés tous les deux dans la même pièce ? Vous avez pu avoir accès à l'homme Snowden, au jeune homme Snowden, à ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il y a dans ses tripes ?
Tout au long de ce processus, Snowden est extraordinairement calme. C'est un homme intelligent, sympathique. Que dire ? Et on s'est lié d'amitié pendant ce séjour. Mais ce n'est pas quelqu'un d'hystérique ou d'effrayé. Il s'était préparé mentalement. Il savait ou il pensait qu'il allait terminer en prison. Donc il était dans une situation, à son avis, où il était à même de formuler des demandes d'asile. Et il y a pas mal de pays qui ont répondu positivement, en Amérique latine, puis évidemment la Russie. Donc la situation était telle qu'elle était plutôt meilleure que ce à quoi il s'était mentalement préparé. Il n'était pas trop terrorisé de ce qui pouvait lui advenir.
Et vous, Sarah Harrison, quelles conséquences l'aide que vous avez apportée à Edward Snowden a-t-elle eu sur votre propre vie ?
Au Royaume-Uni, il y a une enquête ouverte sur Snowden en matière de terrorisme. Il y a une loi bizarre sur David Morning qui a travaillé avec Greenwald, le journaliste, et donc il a été arrêté. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de rester silencieux. Mes conseillers juridiques m'ont dit qu'il ne fallait pas que je retourne au Royaume-Uni. Si je retourne au Royaume-Uni, je serai interrogé, étant donné que je travaille pour Wikileaks et qu'il faut que je protège mes sources. Autrement dit, je serai condamné pour crime selon lequel je serai considéré comme terroriste, étant donné que c'est dans le cadre de cette loi britannique sur le terrorisme.
Il est 18h30, vous écoutez France Inter et nous sommes maintenant en ligne avec Maître William Bourdon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des avocats d'Edward Snowden. Assange dans une ambassade à Londres, interdit de mettre un pied dehors. Snowden apatride à Moscou. C'est le destin, maître, des lanceurs d'alerte ?
Oui, c'est le destin dans le cas d'Edward Snowden, mais d'une façon paroxystique, hein, et éminemment paradoxale, d'être à la fois un homme qui a dessillé, hein, ouvert les yeux d'une partie de l'humanité, qui est célébré par de nombreux citoyens, quelles que soient leurs options, leurs sensibilités, et qui en même temps reste pour une grande partie de l'opinion publique américaine, un traître, et pour les autorités américaines, un criminel en fuite. Donc effectivement, il est dans un grand écart entre un citoyen ordinaire qui a fait un geste totalement extraordinaire, un héros pour une grande partie de l'humanité et un criminel pour une autre partie de l'humanité.
Dans un grand écart et dans un angle mort de la législation.
dans un angle mort de la législation, parce qu'en même temps, on ne doit pas mésestimer l'extraordinaire dynamique l'attitude, à bien des égards, héroïque d'Edward Snowden a suscité avec d'autres, c'est-à-dire cette espèce d'inflation à l'échelon mondial de ce grand mouvement des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire de ceux qui disent au fond je suis condamné, je m'oblige, je me sacrifie en rebattant toutes les cartes de ma vie au nom de la défense d'un intérêt général supérieur à toute autre préoccupation.
Vous le défendez sur quoi et pourquoi ? Est-ce que c'est de manière défensive, quitte à me répéter, ou de manière offensive pour essayer de trouver un pays qui l'accepte en Europe peut-être au titre de l'asile ?
Bon, d'abord, je veux dire que c'est une très grande fierté de faire partie d'un groupe d'avocats internationaux. Nous sommes 5-6 à réfléchir, à méditer, à mutualiser nos expertises, nos compétences en vue d'aider Edward Snowden. Vous comprendrez que je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ce qui pourrait être demain des options. Simplement, il y a une situation à la fois géopolitique et qui pèse très lourdement complexe. Il y a aussi des aspects juridiques, notamment en droit international, en droit national suivant les pays concernés. Et tout ceci demande un haut effort d'imagination. Pour essayer d'envisager un autre futur que celui auquel ne sera jamais condamné éternellement Edward Snowden.
Vous pensez qu'il y a des options ?
Il y en a forcément. Il ne va pas être un doux retraité jusqu'à la fin de sa vie à Moscou. Donc,
pourquoi pas ?
Écoutez, personne ne le souhaite. Aujourd'hui, il y travaille. Et comme disait Sarah il y a quelques instants, c'est un homme très déterminé, très intelligent, avec une grande simplicité, qu'on voit d'ailleurs dans le film, beaucoup de très grande humilité qui lui donne aussi cette universalité formidable. Voilà, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu au lac, mais il y a un travail de réflexion qui est entamé par ce groupe d'avocats internationaux dont je fais partie.
Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, William Bourdon, que l'Europe en tant que telle a un rôle particulier à jouer ? On sait que le Parlement européen notamment est très en pointe sur la question de la défense et du statut à accorder aux lanceurs d'alerte.
Oui, il y a une ambition de l'Europe qui n'est pas partagée par tous les Européens, mais qui l'est de plus en plus, s'il faut le souhaiter, l'espérer, même si c'est difficile d'incarner, de promouvoir des valeurs communes qui devraient s'universaliser plus que c'est le cas aujourd'hui. Parmi ces valeurs, il y a évidemment le fait d'accorder l'asile, la protection à quelqu'un qui est en risque de ne pas bénéficier d'un procès équitable, et personne ne peut douter que s'il est rapatrié de force un jour aux États-Unis, il ne bénéficiera pas d'un procès équitable. Et personne ne peut douter non plus que les immenses services qu'il a rendus à l'humanité devraient lui permettre d'envisager une porte de sortie aujourd'hui autre que celle à laquelle il n'est que provisoirement condamné.
Merci William Bourdon d'avoir été avec nous sur France Inter. Dernière question à Sarah Harrison. L'ancien patron de la CIA et de la NSA dit très clairement dans le documentaire qu'il ne peut pas imaginer que les États-Unis aient la moindre envie de négocier quoi que ce soit avec Edward Snowden. Ce sera la peine maximale et la sévérité maximale. Point à la ligne.
Oui, les autorités américaines ont été très claires. J'espère que le peuple américain se souviendra de ses racines, de ses origines. J'espère que le peuple américain descendra dans la rue pour s'assurer que le gouvernement américain sera à la hauteur de la Constitution, respecte la loi et que les gens comme Snowden, Assange, Manning et Hammond soient considérés comme les héros, parce que ce ne sont que des héros.
Merci à vous, Sarah Harrison. Vous êtes celle qu'Edward Snowden surnomme dans le film, dans le documentaire, la ninja. Il dit « Je pensais qu'on allait m'envoyer de l'aide. Je ne savais pas que Wikileaks allait m'envoyer une ninja. » Et vous racontez que vous attrapez une mouche comme ça dans l'avion et vous dites « Ouais, pour la première fois de ma vie, effectivement, j'ai été une ninja. » Merci encore d'avoir été au micro de France Inter. À voir donc ce documentaire demain sur Planète Snowden, ennemi d'État. Et puis un mot pour vous dire que Pascal Clark, ce soir sur France Inter, dans un live, recevra Laura Poitras, qui est la réalisatrice du documentaire oscarisé sur Edward Snowden. À suivre, la Palestine et les déclarations aujourd'hui de Mahmoud Abbas. Pour l'instant, 18h36, c'est Blur, Go Out.
care to stay alone, dancing with myself. Greedy go-getter gone, luxury of stuff. I'm seedy and the dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. To the local, to the local, to the local. There's nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd, the sun dies, done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. We go into the local.
L'heure sur France Inter, go out, il est 18h39, direction la Palestine.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde, sur France Inter.
Un jour dans le monde qui était en direct de Jérusalem avant-hier, retour donc dans la région aujourd'hui et très précisément à Ramallah en Palestine. Bonsoir Nicolas Repère.
Bonsoir, bonsoir à tous.
RFI et France Inter dans les territoires palestiniens. Alors le président Mahmoud Abbas a pris la parole aujourd'hui et a tendu la main aux Israéliens.
Oui, et c'était un peu la surprise du chef, alors que l'on attendait des annonces fortes du président de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a lui préféré évoquer les élections israéliennes devant les 80 membres du comité central de l'OLP. C'est l'Organisation de Libération de la Palestine. Le président Abbas ne s'est pas prononcé pour un candidat en particulier, il s'en est bien gardé, mais il a affirmé clairement sa volonté de discuter avec celui qui sera élu Premier ministre. Et peu importe qu'il s'agisse de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, candidat à sa propre succession, ou bien de son adversaire de centre-gauche, Isaac Herzog. On se souvient pourtant que les précédentes négociations sous l'égide du secrétaire d'État américain John Kerry s'étaient soldées par un échec cuisant. Les Israéliens avaient quitté la table des négociations au moment où les frères ennemis du Hamas et du Fatah avaient décidé de se réunir pour soutenir un gouvernement d'union palestinien. Alors on écoute ce qu'a dit ce matin le président de l'autorité palestinienne.
Nous n'avons pas de préférence pour les élections israéliennes. Nous ne voulons pas faire d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Peu importe qui gagnera. Celui qui sera élu sera un futur partenaire de discussion. Peu importe qui il sera, ce n'est pas notre problème. Nous discuterons avec celui qui sera élu.
Nicolas, pourquoi cette déclaration aujourd'hui même ? J'imagine que le contexte n'est pas neutre.
Non, évidemment, les élections israéliennes ont lieu dans 13 jours maintenant. Le monde est arrêté en entendant ce scrutin, a dénoncé Mahmoud Abbas. Lui a fait valoir que pendant ce temps-là, la situation économique dans les territoires palestiniens se dégrade. Le transfert des taxes par Israël est toujours gelé, ce qui crée un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de dollars. Conséquence, l'autorité palestinienne n'a plus les moyens de payer la totalité des salaires des 180 000 fonctionnaires. Cela pénalise l'ensemble de la société palestinienne. Il y a aussi la question de la coopération sécuritaire avec Israël. Le comité central de l'OLP qui se réunit jusqu'à demain soir doit décider de la poursuite ou non de l'aide des forces palestiniennes avec l'armée israélienne. Les Palestiniens sont en grande majorité hostiles à cette coopération. Mahmoud Abbas, lui, ne s'est pas prononcé sur la question, alors que ce matin encore, plusieurs hauts responsables de l'OSP ont redit qu'il fallait arrêter de faire le sale boulot à la place d'Israël. La volonté de vouloir relancer les discussions de paix avec Israël en a choqué plus d'un aujourd'hui parmi les dirigeants palestiniens.
Et quelles ont été, c'est ma dernière question, les réactions du côté israélien ?
Alors il y a encore trop tôt pour le dire, hein, mais vous l'avez rappelé Nicolas dans votre émission de lundi, le conflit israélo-palestinien est le grand absent de cette campagne en Israël. Les débats tournent autour de polémiques sur le train de vie du couple Netanyahou, sur le financement des partis ou sur l'Iran, hein, on l'a encore vu hier, mais pas ou peu sur la question palestinienne. Avec cette déclaration, Mahmoud Abbas espère obliger les différents partis à se positionner clairement. Maintenant, personne ne fait campagne sur ce point, mais il espère que ça va changer, même si cela ne rapporte pas de voix. C'est ce que font savoir les instituts de sondage. Rendez-vous compte, il a fallu attendre une interview d'Isaac Herzog, le leader travailliste sur la chaîne américaine CNN, pour connaître sa position sur le conflit avec les Palestiniens. Le chef de la coalition de centre-gauche a réaffirmé que son objectif est d'arriver à une solution à deux États, l'un israélien, l'autre palestinien. Dans cette même interview, Bougie Herzog, comme on l'appelle ici, a clairement affirmé son opposition à la colonisation israélienne en Cisjordanie, mais c'est à peu près tout. Benjamin Netanyahou, lui, évacue le sujet en promettant la poursuite du statu quo.
Nicolas Repère, RFI pour France Inter, en direct de Ramallah. Et à 18h43, c'est partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Ce soir la Turquie.
Oui, 2015 sera le centenaire du génocide arménien. Des pressions internationales pour qu'il soit reconnu par la Turquie et de nombreux ouvrages historiques sur la question. Il est évident qu'on en reparlera cette année. Mais ce soir, j'aimerais qu'on se penche sur un texte écrit par Pinar Selek. Elle ne revient pas sur le génocide en lui-même, mais se souvient de son enfance dans les années 70, le coup d'État de 80, et le déni du génocide et de la minorité arménienne. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas à l'école, et la communauté arménienne subissait 1000 tracas administratifs et foncières au quotidien. Tout le monde trouvait ça normal. Pinar Selek est la fille d'Alp Selek, un célèbre avocat qui a passé plusieurs années en prison après le coup d'État de 80, et petite fille d'Ari Selek, fondateur du Parti des Travailleurs de Turquie. On comprend que la question arménienne, elle y était sensibilisée assez jeune. Et Rand Dink, journaliste d'origine arménienne, assassiné il y a 8 ans, était un de ses proches. Elle en parle beaucoup dans son texte, sans mentionner l'enquête qui explore la piste des responsables provinciaux de la Sûreté nationale. Une certitude, Nicolas, dans la société turque, il y a eu un avant et un après Rand Dink. La preuve, pour la commémoration du 8e anniversaire de son meurtre, et c'était il y a 5 semaines, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Istanbul et d'Ankara. Son meurtre avait donc provoqué une vive émotion.
C'était un déclencheur d'un changement d'échelle en Turquie. Quand, et après, des centaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues en disant que nous sommes tous arméniens, c'était la première fois qu'en Turquie, les gens marchaient pour un arménien. Et après, c'était très étonnant, très vite. Agos était déjà, Agos c'est son journal, le journal arménien et bilingue, et c'était un lieu de rencontre. Et mais après, tout de suite après, après sa mort, il y a une dimension émotionnelle aussi, mais dans l'action collective, on peut voir dans plusieurs expériences, on peut voir la même chose, mais tout après sa mort, il y a eu plusieurs organisations collectives qui ont émergé, et autour de Agos, de ce journal, nous voyons un nouveau mouvement social qui a émergé, et surtout les jeunes arméniens, ils sont devenus très actifs, et maintenant, on ne peut pas se faire taire, on ne peut pas réprimer toute cette mobilisation qui vient vraiment du bas. À partir de ça, on parle du génocide, maintenant c'est un tabou, bien sûr, on ne peut pas parler d'une transformation de les structures politiques. On a beaucoup de chemin à faire.
Il y a une chanson que vous détestiez. Comment s'appelle-t-elle ?
Ma Turquie.
Pourquoi vous ne l'aimiez pas ?
Nous étions obligés d'écouter ces musiques. C'était un pays très militariste, il y avait une militarisation super. Et dans les écoles, etc., partout, on écoutait être turc, on est fier d'être turc, etc. Il y avait toujours cette... Et moi, mon père était en prison et il me racontait qu'en prison, on les faisait écouter mille fois ces chansons. Et après, nous, on voyait toujours, après le coup d'État, il y avait plein de morts, plein de tortures, etc. Tous les jours, on voyait dans les télévisions ces chansons. Alors pour moi c'était impossible. Après quand j'étais torturée, j'étais pendue sur le mur, je criais, j'entendais cette chanson. C'était une chanson qu'on nous faisait écouter pour nous faire la torture, mais aussi pour qu'on n'entende pas notre voix aussi. Alors, quand je suis venue en France, quand j'ai écouté la première fois Jean Ferrat, ma France, maintenant, j'ai, à cause de la torture, mes bras ne fonctionnent pas très bien. Alors, j'ai senti une douleur dans les bras. C'était très automatique. Et après, quand j'ai écouté, grâce à mes amis français, les paroles, j'ai commencé à aimer cette chanson. Et après, maintenant, je peux dire ma Turquie. Parce que je sais qu'il y a une Turquie des oppresseurs, mais il y a une Turquie des résistantes.
C'est d'ailleurs une phrase que vous dites dans votre texte. Il y a la Turquie, celle qui m'a chassé et celle qui m'attend à l'embarcadère.
Oui, c'est ça. Il faut voir que la Turquie, c'est un pays très dynamique et l'espace militant, il est très, très fort. Même s'il y a la répression, la mobilisation continue. Les Kurdes, les Turcs, les féministes.
Et pourtant, vous le dites vous-même, les mouvements de gauche où les militants des droits de l'homme se sont habitués au déni du génocide. Finalement, cette culture de l'indifférence a porté ses fruits.
Oui, mais ce n'est pas les priorités pour le génocide arménien. Je ne suis pas très optimiste pour la justice, pour la réparation. Mais moi, j'ai voulu...
Vous questionnez quand même l'absence de la production intellectuelle, où étaient passés les poètes.
Oui, oui, parce que vous savez, quand il y a un déni, tout le monde se salit, ça salit tout le monde. Et il y a plusieurs poètes que j'aimais. Et je me disais, pourquoi ils n'ont rien dit sur cette question? Pourquoi? Ça salit aussi notre civilisation. Ce n'est pas seulement les victimes. Je crois que les questions de justice, de toutes sortes aussi, c'est une responsabilité parce qu'on vit ensemble, on construit une civilisation ensemble. Alors tout le monde est concerné. Et maintenant, je vis en France depuis 3 ans, je suis réfugiée politique et j'ai appris que jusqu'aux années 70, il n'y avait même pas un livre sur le génocide des Arméniens en français.
C'est vraiment un petit livre parce qu'ils sont arméniens de Pinar Selek, mais dans ce texte-là, on comprend bien comment se construit une société qui se bâtit sur un drame, sur un déni, et il faut à tout prix se construire et élaborer quelque chose. Il n'y a aucune agressivité, au contraire, c'est très calme, très serein. Or, l'histoire de Pinar Selek, c'est une réfugiée politique en délicatesse avec la justice de son pays. En 98, une explosion dans un bazar fait 7 morts, c'est une fuite de gaz, mais le parquet dit que c'est un attentat des militants kurdes. Pinar Selek est arrêtée parce qu'elle travaillait un sujet d'étude sociologique sur la communauté. Elle est torturée pour qu'elle donne le nom des militants kurdes. Elle est relaxée une première fois. Le témoin accusateur confesse que ses propres aveux avaient été obtenus par la torture, donc elle est relaxée. Le procureur fait appel. Deuxième relax. Nouvel appel. Condamnation à perpétuité pour terrorisme. Appel cette fois-ci de la défense qui sera examinée par la Cour de cassation. En attendant, Pinar Selek, réfugiée politique en France, signe donc chez Liana Levy ce très beau texte parce qu'ils sont arméniens.
Éric Valmire, merci.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et je salue Laurence Perron du service culture de la rédaction de France Inter. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Vous nous parlez ce soir du film Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. C'est un film adapté du roman de Thomas Pynchon.
Et oui, et s'attaquer à Pynchon, ça n'est pas rien. Mais Paul Thomas Anderson a prouvé depuis déjà quelques films, hein, Magnolia, The Master entre autres, PTA comme on l'appelle dans le milieu, a prouvé qu'il n'était pas un petit joueur. L'intrigue est ultra touffue, je vous la fais juste dans les grandes lignes. Un privé, façon Philippe Marlowe, mais en beaucoup plus drogué, chevelu et pieds très très sales. Joaquin Phoenix, donc impeccable dans le rôle, un privé à fond dans la weed, s'attaque aux prédateurs immobiliers qui sont en train de mettre la côte ouest des États-Unis en coupe réglée. Alors on est début des années 70, la fin du rêve hippie, éteint par les puissances de l'argent, les politiques et tous ceux que les délires sud ont fini par inquiéter. Inherent Vice, ça n'est pas le portrait d'un toxico-paranoïaque, mais le récit d'un rêve avorté, Paul Thomas Anderson.
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que ce soit juste l'herbe qui le rende paranoïaque. J'ai le sentiment, même si beaucoup de gens défendent cette théorie du « oui, c'est de la parano », j'ai le sentiment qu'avec un peu de recul, personne n'a été parano à cette époque. Au contraire, leur jugement était très juste. Les gens ont été désignés fonction de leurs opinions politiques, droite ou gauche, et poursuivis pour cela. Certains se sont branchés sur des groupes anti-subversifs, et ça, ce n'est pas de l'hallucination paranoïaque. Ça a vraiment existé.
Dans les années 60, est-ce que vous pensez que l'establishment s'est vraiment senti menacé par ces groupes hippies ? groups.
Oui, bien évidemment. Ma conviction, c'est qu'au départ, ils ont suscité la curiosité. Sans doute, ils trouvaient qu'ils sentaient mauvais, ils n'aimaient pas leurs cheveux longs.
Maybe they didn't like the way they smelled. Maybe they didn't like that their hair was that long and they were kind of looking at them.
Mais ils les jugeaient alors surtout sur leur apparence. Et c'était tout.
And then you have the drugs.
Et puis, il y a eu la drogue qu'ils n'approuvaient pas vraiment. Bon, je pense qu'ils auraient préféré qu'ils boivent des cocktails, en fait. Mais là où tout a basculé, c'est avec Charles Manson. Là, les choses sont devenues très sérieuses. La menace est apparue comme réelle. N'importe qui avec des cheveux longs pouvait potentiellement être un tueur en masse. Ce qui a été une formidable excuse pour l'establishment de leur tomber dessus. C'est là que tout vraiment s'est assombri.
Alors Charles Manson, donc leader d'une communauté hippie qu'on appelait alors la famille, reconnu coupable de plusieurs meurtres, dont celui de Sharon Tate, la femme de Polanski, alors enceinte de 8 mois. Il a été condamné à la peine capitale en 71, peine commuée en prison à vie, il est toujours emprisonné d'ailleurs. Et en 97, lors d'un de ses appels pour une remise en liberté conditionnelle, voilà ce qu'il déclarait.
I might be ashamed of that for not doing enough, for not giving enough, for not being more perceptive, for not being aware enough, for being stupid. Maybe I should have killed 400-500 people, then I would have felt better.
Alors voilà ce qu'il dit, si je devais avoir honte pour quelque chose, c'est cela, ne pas en avoir fait assez, ne pas avoir été assez visionnaire, assez conscient, d'avoir été stupide, j'aurais dû en tuer 400 ou 500 de plus, et là je me sentirais mieux.
Oui, c'est effrayant. Si on revient au film, Laurence, l'autre tour de force, c'est que Thomas Pynchon ait accepté que son livre soit adapté.
Et oui, c'est vraiment une première, Paul Thomas Anderson ne l'a jamais rencontré, tout s'est passé par son agent, il paraît qu'il aime son cinéma, il aime le film, et c'est assez drôle parce qu'à la sortie du livre, en 2009, Pynchon a fait faire un petit trailer sur lequel on entend sa voix et l'univers visuel, voire même certains plans, se retrouvent carrément dans Inherent Vice. Lors de la première au Festival de New York, certains journalistes, dont un journaliste de Télérama d'ailleurs, sont quasi certains d'avoir aperçu l'écrivain que personne n'a jamais vu, caché sous une grande casquette. Et ça fait beaucoup rire Paul Thomas Anderson.
Je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment. Non, il doit exister forcément, ou quelqu'un qui écrit ses livres.
Parce que j'ai lu qu'à la première au Festival du film de New York, il était là.
Who knows? Qui sait? Peut-être qu'il était là, en tout cas. Il a pu venir, comme personne ne sait à quoi il ressemble. C'est génial. Vous le croisez peut-être tous les jours dans la rue. C'est dingue. J'adore cette idée.
Oh man.
Dans ma prochaine vie, si je ressuscite, je veux faire ça. Je prendrai quelques pages de ses livres et je refuserai de me faire photographier, interviewer. Je serai juste cet homme mystérieux et ce sera excitant.
Voilà, Inherent Vice de Paul Thomas Anderson depuis aujourd'hui sur les écrans. C'est un film inter.
C'est un film inter avec une magnifique bande-son signée Johnny Greenwood de Radiohead. Et on entend notamment Neil Young avec cette chanson Bad Hippie Dream.
The screaming sheets and the dusty trail leads to blood in the street and the wooden shield.
Neil Young sur France Inter, merci Laurence Perron. Il est 18h55.
Un jour dans le monde.
Qu'allez-vous dire?
Eureka, Syriza a déjà capitulé.
Ah, vous êtes content?
Ah, je suis heureux. Merci et pardon.
Sur France Inter.
L'édito, bonsoir Arnaud Le Parmentier.
Bonsoir Nicolas.
Directeur adjoint de la rédaction du Monde, un Français condamné à mort.
Oui, ce n'était pas arrivé depuis l'abolition de la peine de mort en France en 1981, précisément depuis l'exécution en 1977 de Jérôme Carin, guillotiné à Douai pour le viol et le meurtre d'une enfant. Un Français risque d'être exécuté dans les prochains jours en Indonésie. Il s'agit de Serge Atlaoui, 51 ans, artisan zingueur, père de 4 enfants et établi jadis aux Pays-Bas. Son histoire est pathétique. Cet homme sera en Indonésie en 2005. L'offre est alléchante. Il s'agit d'installer des pompes et des machines à distiller dans une usine d'acrylique, 2000 euros par semaine. Au noir. En réalité, il s'agit d'un atelier clandestin d'ecstasy. Serge Atlaoui se trouve là quand la police indonésienne fait une descente. Accusé de trafic de drogue et de gestion d'une usine de narcotiques, il est condamné à perpétuité. Peine confirmée en appel. mais aggravé par la Cour suprême qui le condamne à la peine capitale en 2007. Son recours en grâce a été rejeté le 29 janvier dernier par le nouveau président indonésien Joko Widodo. Il ne lui reste plus qu'un infime espoir, une demande en révision avec une audience fixée le 11 mars. D'autres n'ont plus cet espoir alors que l'Indonésie a décidé de mettre en scène les exécutions de trafiquants de drogue. 5 étrangers ont été fusillés début janvier, conduisant le Brésil et le Pays-Bas à rappeler leurs ambassadeurs. Une nouvelle charrette est prévue. 2 Australiens ont été ainsi transférés ce matin de leur prison de Bali vers l'Alcatraz local, une prison construite sur une île par la puissance coloniale hollandaise au début du XXe siècle. Ils avaient été condamnés à la peine capitale en 2006, appréhendés sur des indications données par la police australienne. Qui s'en mord aujourd'hui les doigts. Ce transfert, c'est le début du compte à rebours, le début du délai de 72 heures, au-delà duquel ils pourront être passés par les armes à tout moment. Le transfert a été ostentatoire, avec un transport aérien, un voyage en véhicule blindé, une traversée en ferry survolée par un avion de l'armée. Et la semaine dernière, la même armée indonésienne avait organisé une répétition générale de l'opération. L'homme derrière ces décisions, c'est le président Joko Widodo qui a interrompu un moratoire de fait sur les exécutions capitales. La fermeté de cet homme élu démocratiquement, modéré et vanté par les Occidentaux a surpris. En fait, il considère que la drogue est un fléau. Il répète que chaque jour, 50 personnes dans son pays meurent de la drogue, 18 000 par an. L'attrait touristique de l'Indonésie en fait une cible privilégiée des trafiquants de drogue. Le président craint les mouvements djihadistes dans ce pays musulman modéré. Enfin, Joko Widodo a perdu de la popularité en raison des difficultés économiques. Se montrer inflexible, y compris vis-à-vis de l'Australie voisine, ne peut pas nuire à sa popularité. La majorité de la population indienne est de surcroît favorable à la peine capitale et elle voit que la petite île voisine, Singapour, a réussi à éradiquer le fléau de la drogue via une répression implacable. On croyait donc la peine de mort en recul. Depuis que les États-Unis ont reconnu des erreurs judiciaires et manque de barbiturique, la voilà qui repart. Le Japon a repris ses pendaisons depuis 2 ans. L'Inde a aussi rompu un moratoire de fait. Le Pakistan a fait de même après l'attentat contre une école de Peshawar. La Jordanie a exécuté une djihadiste immédiatement après l'assassinat odieux d'un de ses pilotes par l'État islamique. Tous les pays ont toujours des explications. Aucune n'est acceptable. La peine de mort n'est pas une solution. Jamais.
Merci Arnaud Leparmentier et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Bon pied, bon oeil, le programme du téléphone sonne tout à l'heure à 19h20.
Les drones ce soir, ces drôles d'engins que des télépilotes s'amusent ou ne s'amusent pas, mais comment le savoir, à faire survoler Paris ou des sites nucléaires sensibles. Une dizaine de vols signalés encore la nuit dernière au-dessus de la capitale. Alors quels sont les risques? Que peut-on faire pour détecter, voire intercepter ces drones? Et à quoi servent plus généralement ces aéronefs? C'était l'autre mot, l'aéronef d'un nouveau genre, filière dans laquelle la France est par ailleurs leader. Eh bien, on en parle ce soir au téléphone sonne. J'attends dès maintenant vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux, franceinter.fr, Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Merci Hélène, rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Un mot pour vous dire que Maître Henri Leclerc sera demain matin l'invité de Léa Salamé. Et puis à 8h20, Patrick Cohen reçoit la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin. Nous relirons nos classiques demain soir à 18h15 dans Un jour dans le monde, grâce à Frédéric Boyer qui vient de publier une nouvelle traduction originale depuis le sanskrit du Kama Sutra. C'est chez POL.